Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler littérature et petite fille modèle avec comme toujours l'ambitieuse littéraire téméraire qui ne lâchera jamais l'affaire tant qu'elle n'aura pas détrôné Baudelaire assis sur le trône de fer des bibliothécaires. Il le bouscule les codes établis, déchire les tabliers d'écolier pour arborer fièrement son corps d'Apollon et sa plume d'ormeçon. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Salut Gaspard.
Avec nous également ce soir la sœur cadette de notre sororité de mec bien burné, celle qui remet nos idées en place à coups de réparties bien senties et de coups de Santiago dans les parties. Elle triomphe vers l'infini et au-delà des dogmes, des carcans sociaux et des autres barrières symboliques d'une vie qu'il faut vivre à rêver plutôt que de rêver de vivre. Cécile, bonsoir Cécile.
Bonsoir Gaspard.
Enfin, il fait son retour dans l'émission, prêt à péter les genoux au patriarcat comme il l'a fait avec le grand Diego après que celui-ci l'ait forcé à séparer l'artiste de l'œuvre. Il est le bras armé de la lutte pour la justice sociale, la Kalachnikov de la démocratie, la tronçonneuse rouillée du militantisme, fervent défenseur de la blitzkrieg culturelle pour une meilleure égalité des chances. Il saura nous convaincre avec douceur et douleur. Cyril, bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Et on se retrouve ce soir, 602 jours après avoir tous les quatre affronté les caprices et autres malheurs de la petite Sophie pour s'attaquer ce soir aux irréprochables, aux merveilleuses, aux combatives, aux ambitieuses et exemplaires quatre filles du Dr. March de Louisa May Alcott, monument littéraire de la littérature américaine, paru en 1868. Alors j'allais pas dire statue parce que du coup même le mot monument je le prends avec beaucoup de pincettes et je ne sais pas tout ce qu'elle a fait dans sa vie, donc si elle a dit des bêtises, pardon.
Par pitié, me déboulonnez pas s'il vous plaît.
Déboulonnez.
Louisa May Alcott, née le 29 novembre 1832 à Germantown en Pennsylvanie, est une romancière américaine. Alors dès l'adolescence, elle s'est mise à écrire et publie son premier livre à l'âge de 16 ans.
Les aventures de Prouty Prout.
Mais malheureusement, l'attitude violente et irresponsable de son père l'a contraint à devoir très vite travailler pour subvenir à ses besoins.
D'où l'absence du père.
Elle devient gouvernante, aide domestique ou alors infirmière durant la guerre de sécession.
C'est que des métiers de femmes, ça. Hein.
Ah bah.
Ouais, bah ça.
Et elle avait le carnage.
Ça n'existe pas.
Eh ben oui.
Elle s'engage très vite dans la lutte contre l'esclavagisme et pour l'émancipation.
Ah bah c'est bon alors pour la statue.
Voilà. Que ça soit l'inverse, je sais plus. Bref, en 1864...
L'émancipation des esclavagistes. Oui, je suis esclavagiste et je le crie sur tous les toits.
Je suis contre les esclaves, mais oui, si c'est des femmes, voilà. En 1864, à 32 ans, elle publie alors son premier roman intitulé Moods. Elle
prend alors la...
Nudes.
Scène Mudes. Exactement.
Scène Mudes en 1870, des gravures de la meuf.
Qui arrive par carriole. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu.
Tu sais, quand tu... T'as ta mère qui dans ta chambre et t'as ton espèce de truc en marbre sur les... Tu sais, le planqué hyper dur. C'est pas ce que tu crois.
Le planqué sans le claquer. Hein.
Oui, tu claques sur la bite, t'as plus rien.
T'éteins tes 8 bougies au-dessus de ton lit. Bref, en 1868, elle prend la tête d'un journal pour enfants et entreprend alors l'écriture d'un roman pour enfants. Ce sera Les 4 filles du Dr. March qui est publié la même année. Ça devient un carton, mais de malade mental dans tout le pays, à tel point qu'elle publie aussitôt la suite, Le Dr. March marie ses filles. Bon, on aura le temps.
Il y a le 3, Le Dr. March Origins.
Figure-toi qu'il y a eu un 3, Le rêve de Joe en 71 et La Exactement. Grande famille de Joe March en 86, avant Joe March Avengers Endgame.
Ah, et le fils à Joe.
Et le fils à Joe.
Avec un crossover avec la petite Sophie qui. Et alors ça se fout sur la gueule.
C'est Marchvel Universe. Même si son éditeur ne la paye pas immédiatement pour son travail,
parce
elle gagne.
C'est une femme.
Oui.
Et voilà.
Elle gagne en revanche un fric de malade en droit d'auteur grâce aux filles du Dr. March et permet de mettre toute sa famille à l'abri pour des générations et des générations. Et en parallèle des livres pour enfants, elle écrit également des romans noirs, gothiques. Sous le pseudo. J'imagine un jour, t'imagines, elle se trompe de manuscrit. Elle publie, t'imagines, Fifty Shades of Grey dans les pages de Dr. March.
Ça fait 6 mois, c'était au fin fond de l'Ohio. On est en 1895, ça fait 6 mois que t'attends la suite. C'est toutes tes économies de 2 ans entiers qui sont allées pour acheter un livre.
En vrai,
tes parents,
ils savent
pas lire.
Saucée, hein.
Et là,
Laurie sortit la cravache et démonta Joe. Et le 6 mars 1888, elle meurt à Boston à l'âge de 55 ans après des graves séquelles de la fièvre typhoïde qu'elle a contractée durant la guerre de sécession.
Hell yeah.
Rock and roll life.
Fuck yeah bitch.
Bref, en tout cas, elle reste un monument de la littérature américaine. Je pense qu'on se rend pas vraiment compte en France, mais aux États-Unis,
c'était c'est... une femme quand même. C'est
et
bien.
C'était une femme, c'est surtout ça, voilà. Et elle a bâti, elle a même été parmi les plus grandes féministes de son temps, donnant peut-être de certaines vocations aujourd'hui. C'est pour ça que je parle à toi, Raphaël.
Ah, on va pouvoir parler des femmes. Alors le mieux c'est quand elles sont dans la cuisine.
Non, mais les quatre filles du docteur Marsh, donc un bouquin qui est très célèbre, que moi je n'avais jamais lu.
Ouais,
je sais pas.
Moi
je
l'avais en BD. Mais donc, tu sais, archi abrégé. Voilà.
C'est juste le titre.
Voilà, c'est, ça.
Là, c'est vraiment des trucs genre je m'appelle Joe, je suis extrêmement indépendante. Cut, 20 pages plus tard.
La bibliothèque de mes grands-parents, quoi.
Il faut savoir qu'à la base, c'est un comics. Les sœurs Marsh.
D'où le Martial Universe.
C'est Joe qui est piqué par une araignée féministe.
C'est ça.
Je dois me libérer de ma condition.
Cyril, toi,
je
qu'est-ce que t'as
pas vu. J'avoue que je connaissais pas en fait.
Ah ouais?
Non, j'ai appris.
T'avais
l'existence.
Jamais entendu parler.
J'ai appris l'existence du livre à la sortie du film.
Ah oui, d'accord,
j'avoue,
récemment.
J'avoue mon inculture.
Parce qu'en effet, on peut le dire, c'est un bouquin qui a été mais tellement adapté. J'ai lu 6 fois au cinéma et presque 10 fois en série.
Ah ouais.
Série.
Et c'est pour ça que ce soir, on va regarder les 137 heures d'adaptation.
Yes.
Disponible.
Accrochez-vous à vos slips. On va parler de petites filles pendant 137 heures sans déraper. PPP.
Donc la première fois que tu lis, alors est-ce que un rapide avis, on va refaire un tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé.
C'est un roman pour enfants, c'est un roman de jeunesse.
Et ça t'a plu ça?
Mais c'est bien, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et non, c'est intéressant. Après c'est une écriture qui est très, enfin il y a beaucoup de morale, il y a beaucoup d'idées derrière, voilà, où on sent que c'est quand même destiné à de la jeunesse et il faut qu'elle s'éduque et qu'elle pousse, enfin que les enfants poussent droit en quelque sorte et deviennent de bons adultes. Donc c'est pour ça que c'est plein de morale et tout. Et bon, ça peut être un peu long, mais c'est intéressant. Et puis ça nous raconte l'histoire d'une merveilleuse famille qui n'est pas sans rappeler les Kim Kardashian
de l'époque, en effet.
Exactement.
Toi, Cécile?
Moi, j'ai grave kiffé.
Ah, j'ai adoré. Ah, je me suis reconnue, ouais.
Mais non, mais c'est trop bien. Mais après, je suis d'accord pour le côté moralisateur et tout, etc. Mais ça m'a un peu fait penser au Malheur de Sophie.
Ah bah ça rentre beaucoup.
Non mais tu sais, non mais dans le truc de tout est beau, tout est bien et tout, et t'as vraiment pas envie qu'il arrive des trucs horribles et que ça va être horrible s'il arrive des trucs horribles.
Et genre, il ne se passe jamais arrive. Rien d'horrible.
Non mais si, non mais
ah bah si, il y a quand même des trucs trashos.
Ah ouais, il y a des trucs trashos. Enfin, et puis même après c'est pas idiot en plus comme.
Bah les bébés meurent. Je sais pas ce qu'il faut Raphaël, non, mais les bébés meurent.
Non mais même le truc du carnet là, enfin c'est horrible.
Ah oui j'avoue.
Enfin bref, du coup on en parlera après. Mais non moi j'ai vraiment trouvé ça super super intéressant. Ça paraît niais, en fait, ça ne l'est pas du tout. Et voilà. Toi, Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé?
Non, mais rapidement, effectivement, quand tu remets dans le contexte, c'est intéressant, etc. En fait, les premières fois que tu lis, tu dis que ça date pas de cette époque. Quand elle arrive à la description de Joe, qui effectivement te dit putain, mais ça pourrait être écrit aujourd'hui par le meilleur fandom de Harry Potter qui voudrait créer un personnage queer un peu dépendante. Et là, tu fais les tryhards n'auraient pas fait mieux, sauf qu'elle, elle le fait très naturellement. Elle le fait à une époque où je pense que si tu disais droit de vote, un homme avait légalement le droit de te violer puis torturer.
Ou de te jeter ton esclave.
Tu prends son esclave, il le jette sur la femme, tue-la.
Comme un Pokémon. Attaque!
C'est un peu ça. Donc oui, elle a écrit ça dans une époque et quand même compliquée et c'est très bien pour ça. Après, c'est fait aussi pour les petites filles et je dis pas ça en mode c'est fait que pour les filles, mais c'est quand même un récit qui est fait pour les enfants avec des bonnes morales.
Toi t'es grand toi.
Ouais, moi je suis un grand intelligent pour moi, ça. Hein,
parce que moi comme j'ai lu Fifty Shades of Grey, je m'attendais un peu plus de concupiscence, vois-tu.
Mais le papa il est pas là donc
déjà, on peut s'imaginer les choses. Moi j'aurais bien aimé voir le récit du point de vue de Madame March et surtout de ses relations avec les autres hommes de la ville.
pendant que son mari est à distance.
Au front. J'aimerais bien savoir ça. Voir même les relations de son mari avec d'autres personnes au front.
Oh. Mais en même temps, c'est pour une fois qu'on n'a pas le récit d'un mec à la guerre, mais de la famille derrière.
Est-ce que tu peux en profiter pour nous faire un petit pitch de...
Mais t'as pas donné ton avis, monsieur Gaspard.
Oui, mais je t'autorise à me faire un petit pitch avant.
Un petit pitch. Oh là, oh là là.
Cancel culture de Gaspard.
Donc c'est en 1860, en pleine guerre de sécession. Et on a donc Madame March et ses quatre filles, voilà, qui sont de 16 ans à 5 ans.
67.
Ans.
Elle a 67.
De 7
la plus
à 77 ans.
Non, je sais pas quel âge elle a la plus petite. Enfin, de 5 à 16 ans.
Oui,
en
à
gros.
Peu près, c'est ça, oui.
Et elles vivent. Donc, le mari, le père, est parti à la guerre. Il s'est auto. Engagé dans un hôpital parce que c'est un homme bien.
Bon, rester avec ses filles et sa femme pendant toute une guerre. Je préfère crever au fond.
Ça va pas durer longtemps.
Tu viens, Marge ? Ouais, j'arrive les mecs.
Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avant, c'est une famille un peu désargentée parce qu'avant, ils avaient de l'argent et qu'ils ont, après des mauvaises péripéties, ils ont perdu leur argent et on se retrouve après ce moment-là où ils sont un petit peu pauvres. Mais ça va.
ils ont suivi la formation qu'un type dispensait dans le pub.
Puis, non, mais c'est un peu ça l'enjeu du truc, quoi. On est sur une famille un peu désillusionnée, des enfants qui n'ont pas forcément bien vécu le fait de ne plus avoir d'argent. Et du coup, il faut apprendre la vie. Et c'est ça que dit le roman. Comment apprendre la vie ? Toi, Gaspard, qu'est-ce que tu as pensé ?
Moi, c'est pareil. Bah, je vais aller très, très vite. C'est pareil. C'est la première fois que je le lisais. Il me semble que j'avais vu il y a très, très, très longtemps le film, mais celui avec Winona Ryder. Un truc qui date des années 90. Et en fait, je m'attendais à regarder ça un peu d'un œil adulte, en mode genre rien, c'est nul, la littérature pour les enfants. Et en fait, je me suis vraiment fait avoir. Et je trouvais ça très. En fait, j'ai trouvé ça très agréable au début parce que je me suis dit, tiens, ça me fait plaisir, un bouquin où il se passe que des trucs bien.
Et ça prend pas les enfants pour des cons.
Déjà, ça prend pas les enfants pour des cons.
Et enfin, oui, c'est vrai.
C'est quand même hyper ballsy de sa part d'écrire un truc pareil. Enfin, genre, comme tu disais, c'est que ce serait hyper opportuniste aujourd'hui. On se dirait, c'est facile de créer. Bah oui. Mais quand tu dis qu'elle, elle a aucun référent à côté et qu'elle écrit un personnage qui est finalement hyper contemporain, je trouve ça hyper efficace. Et puis surtout, elles m'ont ça parfois un peu agacé, mais je les trouve top, quoi.
Oui, elles sont bien.
Et puis ce qui est bien dans l'écriture, c'est qu'elle est, elle est cynique. Enfin,
t'es le chanteur cynique qui a écrit ça?
Mais non.
C'est ça qui est fort.
L'autrice est cynique. Enfin, tu vois, elle est. Il y a beaucoup d'autodérision et de critique de ce qu'elle dénonce.
Parce que c'est très autobiographique surtout, en plus. Ouais. Donc elle revient sur sa vie.
Et
avec,
surtout que les personnages qui sont des enfants eux-mêmes ont eux-mêmes conscience de leur. La manière dont parfois ils jouent un peu la comédie devant les gens, et la conscience de leurs défauts, etc. Alors, I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die.
Et tout commence, du coup, comme nous disait Cécile, en 1860, en pleine guerre de sécession.
Guerre civile énorme.
Comme dirait la guerre, Macron.
La guerre du saucisson.
C'est comme la série HBO, sécession. Tout commence, du coup, à la veille de Noël. On fait la connaissance de la jeune famille March. Le papa est à la guerre. Il est aumônier. La maman et les quatre filles.
Qui s'appellent Meg, Joe, Beth et...
Amy. Alors moi, dans l'ordre de la plus grande à la plus petite.
J'aurais insisté sur Joe, moi, plus que Amy, mais...
Parce que oui. Joe est plus ou moins le personnage principal, on va comprendre.
Joe est plus ou moins le personnage principal.
Et quand on lit la bio de Louisa, on comprend que Joe, c'est un peu elle, quoi.
Exactement.
Et par personnage principal, on veut dire que c'est la seule qui soit intéressante. Les autres, on s'en branle un peu.
Ah, ça y est, il attaque.
L'apport d'Amy dans cette histoire.
Amy vole des blagues, comme toutes les Amy, mais après ça, elle fait pas grand chose.
Oui, c'est ça. Ce serait pas mal, tu vois, s'il y avait un truc un peu qui la rendait intéressante, genre elle est connectée au démon et de temps en temps, elle a dit.
Ta merde.
Elles ont chacun un talent.
Exactement. Alors, c'est quoi leur talent?
Alors, le talent d'Amy, c'est d'être connectée au démon.
Ta mère!
Amy, elle adore dessiner. Bess, elle adore jouer du piano.
Exactement.
Joe, elle écrit des histoires. Et Meg, j'ai oublié.
Alors, du coup, c'est le matin de Noël. Et leur père leur envoie une lettre pour leur dire vous êtes des petites filles modèles, il faut que vous restiez des petites filles modèles. Et du coup, qu'est-ce qu'elle décide? Plutôt que de se faire des cadeaux, elle décide cette année de faire un cadeau à Momo.
Ah bah,
Parce
qu'elles adorent Momo.
Comment elle l'appelle?
Marmee.
Vous l'avez lu en anglais?
Marmeux. Marmeux. La bonne vieille Marmeux.
Marmeux.
Des bisous, des poutous.
Du coup, elles vont lui faire un cadeau plutôt que faire un cadeau à elle.
Alors qu'avant, elles réfléchissaient même à envoyer leurs dollars à papa pour l'effort de guerre, tu vois. Donc c'est encore plus.
Non, elles voulaient s'acheter des trucs pour elles.
Alors il y a ça, puis après, elles disent non, mais on pourrait être sympa, l'envoyer à papa. Et en fait, on va faire des cadeaux à maman. Alors de l'eau de Cologne, des gants très jolis, des trucs.
Et un truc qui vibre, maman. Je sais pas ce que c'est, mais le mec, il nous a dit que t'allais adorer.
Merci, mais c'est là que, du coup, avec ça, on comprend tout de suite le problème de l'argent, du coup, parce que avant, elles avaient plein de trucs à Noël et plein de sous, et du coup, elles pensaient pas à ça.
L'année dernière, on avait 37.
Comme Dudley.
Mais ce qui fait que finalement, le matin de Noël, elles arrivent, elles se réveillent, il y a plein de livres, et il y a plein de livres pour elles. Donc,
alors, c'est la maman qui a offert ça.
Elles ont été gâtées, finalement.
Alors, la maman leur a offert des livres de morale. C'est-à-dire, les cadeaux en 1860, ça blague pas du tout.
Et je crois que la première chose dans le livre, c'est « Tu n'oublieras pas de fêter la fête des mères.
» Petite conne. C'est parce que t'avais aussi le livre des péchés qu'on t'offrait, c'était très vilain.
Et surtout, elle les flex tout de suite en lui disant « On va voir si vous êtes morale. Qu'est-ce que vous faites de votre petit-déj de Noël ?» pas pour vous.
Non.
Elle s'est fait chier à le préparer pour dire « Maintenant, vous allez apprendre le petit-déj. »
Enfin, elle, non. Parce qu'on a oublié Anna.
Oui.
Elles ont plus d'argent, mais il y a quand même Anna.
La vieille bonne.
Voilà.
Elle est de quelle couleur, Anna? Ils le
qui
disent pas. Hein.
On a peut-être pas d'argent, mais on a toujours notre titre de propriété sur Anna. Elle commence à dire que leur petit-déj, elles l'ont donné à la famille encore plus pauvres que eux, ouais. qui sont les Hummel.
J'ai lu pauvre.
Ouais.
La famille pauvre.
Elles acceptent et elles sont récompensées par la famille de riches,
oui.
qui est Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence.
Ça, c'est littéralement la théorie du ruissellement.
Exactement.
Voilà. Si tu te comportes bien. Et du coup, bah, ils ont un super repas qui est sponsorisé. Alors, ils sont obligés, tu vois, tout le temps, ils prennent une bouchée et dire « c'est vraiment délicieux ce Mountain Dew, merci à la compagnie Lawrence d'avoir… »
C'est un petit déj sponsorisé.
Ils donnent la bouffe et alors, par contre, il va falloir signer ça avant, s'il vous plaît.
Il va falloir une story, il y a un mec qui vient graver ça.
Chacune dans son domaine remercie de Mr. Lawrence. Genre,
c'est ça, avec un dessin.
Meg agit, Joe écrit, quel magnifique déjeuner.
Et Amy communique à Satan pour lui dire à quel point elle a adoré le G-Fuel. C'est tout super bon.
Quelques jours plus tard, alors, les sœurs aînées, Meg et Jo, elles sont invitées à une soirée dansante pour le nouvel an.
Youhou.
Elles s'y rendent, elles sont toutes pimpantes. On découvre qu'elles sont très heureuses de s'habiller, de se mettre
en bombe. Après, Jo, elle s'en bat un peu les couilles.
Pourquoi ouais. elle s'en bat les couilles? C'est quoi un peu la personnalité de Jo?
Ah, Jo, c'est un petit peu garçon manqué. Elle aurait voulu être un mec, quoi, tu vois.
Mais elle le dit clairement. Genre, elle arrange ses cheveux pour qu'on ait l'air d'un homme. Elle porte des vêtements de garçon.
Elle s'en fout des belles robes et tout machin. Elle est contre le mariage.
Et là, tu parlais tout à l'heure du fait que Jo, c'est un petit peu notre autrice jeune. Mais c'est clairement assumé parce qu'elle le disait à un moment qu'elle se ressent comme étant Jo. Et elle disait, moi, quand j'étais petite, pour qu'un garçon soit copain avec moi, il fallait d'abord que je l'ai battu à la course. Et pour qu'une petite fille, je sais plus, il fallait que...
Qu'elle me paye. Ouais.
Et aussi, Jo, elle a un caractère très marqué, un caractère de chien, comme elle dit d'ailleurs dans le livre. Donc du coup, elle gueule tout le temps. Voilà.
Elles arrivent et à la soirée, elles font Jo dans son coin, parce qu'elle a pas envie d'aller danser. Et surtout, on comprend que sa robe est toute sale, alors elle peut pas se montrer.
Elle a été brûlée.
Elle fait la connaissance d'un jeune homme.
Mr. Lawrence.
Sa meilleure amie.
Son meilleur ami, en effet.
C'est qui, Laurie, Cyril?
Laurie, donc Laurie Lawrence, de son prénom.
J'avoue, j'avais jamais capté.
Qui est
Théodore. Lawrence.
Théodore Lawrence. Et les enfants à l'école, il aime pas que ses camarades l'appellent comme
pour
ça.
Pour rectifier, il va pas à l'école. Il a un précepteur.
Alors,
c'est qui qui l'appelle Théodore?
Oh, je sais pas. Il est un peu
chiant. C'est les amis au Racing.
Il est un petit peu chiant.
Laurie, c'est vraiment le petit bourgeois.
Elle nous emmerde un petit peu, très clairement.
Elle fait la rencontre de Laurie. Ça match un peu, mais ça match pas du bon côté, entre guillemets. Ça match amitié fou, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils se kiffent et tout, mais ils sont totalement dans la friendzone. Tout se passe bien.
100%, voilà.
Ils vont danser, ils s'amusent. Elle lui dit, je peux pas danser, ma robe est abîmée. Il est là, j'en sais pas, who cares.
Enlève-la.
Juste enlève-la, on reste amis. Pas de soucis.
À l'américaine, who cares.
Who cares, man. De toute façon, je crois que la prod avait interdit qu'ils se retrouvent entre eux, tu vois. Genre, parce que quand ils filment, ils disent, non, parce qu'elle est dédiée à Meg, donc
tu peux pas
vous coucher pas ensemble, s'il vous plaît.
Bref, Joe ne tarde pas alors à rendre visite à Laurie, qui devient très rapidement sa meilleure amie, en effet, tu as raison. Et surtout, au vieux monsieur, Mr. Lawrence, qui est fan des petites filles marches, qui les trouve toutes merveilleuses, notamment Beth. En fait, il va beaucoup se prendre d'amitié pour la jolie Beth.
Assieds-toi sur mes genoux, Beth.
Et moi des pantoufles.
Pas trop Amy, par contre, qui bave dans son coin.
Amy,
Satan.
Vas-y, je suis la bête.
Elle a des problèmes, ta sœur.
Elle est toute seule derrière un rideau avec la mousse qui sort en dessous. Elle entre en transe.
On est un peu sur une chronique du temps qui passe. Laurie se rapproche de plus en plus de toute la famille. Mm-hmm. Ils sont inséparables, Jo et Laurie. Mm. Et surtout, il la soutient parce qu'elle a envie de devenir écrivaine.
Yes.
Autrice.
Putain, c'est formidable. Une femme qui veut écrire, tu pourrais, je sais pas, parler d'amour ou peut-être de chevaux. Tu connais les chevaux, mais ça
doit
te plaire.
Ah, elle adore les chevaux. Ah, bah, Jo.
Quand tu dis meuf,
Elle veut devenir écrivaine, donc en fait c'est vraiment l'autobiographie de Louisa May Alcott.
Et aussi Jo de son côté soutient Laurie dans son envie de devenir pianiste. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, ce qui est pas mal à préciser, c'est que du coup Jo et Meg, elles ont arrêté l'école pour travailler.
Exactement, oui, parce qu'il n'y a plus du tout d'argent en fait à la maison, puisque papa est allé boire. Et il est sur la guerre. Pardon, à la guerre.
Oh là là, il écrit sur la. Ouf, c'est chaud. Hein.
Donc,
oh
on a,
là,
on a
c'est
un
dur.
Petit peu une chronique de différents trucs. Et il va y avoir surtout un premier incident à l'école pour Amy. Et son... En fait, j'ai l'impression qu'il faut voir une série sur Amy et Satan qui vont aller. Bref.
Avec les citrons confits.
Elle est en train de jouer toute seule dans la corde. T'as une petite fille. Amy, tu veux jouer avec moi?
Non.
Elle lui casse la colonne vertébrale en deux.
Ton offrande est acceptée par Satan.
Alors, Madame Marsh, on aimerait vous parler de Amy. On a tous un peu peur, quoi.
Qu'est-ce qui se passe à l'école, Cécile?
En gros, il y a tout un trafic de citrons confits, comme nous, on avait les billes ou les autocollants, en gros, c'est ça.
Exactement.
Et du coup, elle a des dettes, Amy. Parce que...
parce qu'elle a tué trop d'élèves.
Il y a des yakuza qui la cherchent.
Et qu'elle a déjà vendu son âme au diable.
Elle peut plus rattraper.
Elle a des dettes, elle doit rendre des citrons confits aux gens parce que c'est un moyen d'être populaire, en gros, de donner des citrons confits et d'en recevoir.
Une autre époque. Voilà.
Et du coup, c'est trop chou parce que ses sœurs, elles lui donnent de l'argent pour qu'elle puisse acheter ses citrons confits. Sauf qu'elle, à l'école.
Elle se fait griller.
Elle se fait griller. Et le maître, il est pas content.
Et du coup, il la punit, il la frappe sur les doigts.
Il la frappe sur les doigts. Elle prend la punition de sa mère.
Tu as déclenché la colère de Satan.
Et Amy la capteuse, quand elle rentre à la maison, elle dit maman, je me suis fait frapper par le prof. La mère, elle décide, ok, bah t'iras plus à l'école. Tu vas faire l'école maintenant à la maison avec tes sœurs.
Et c'est moi qui te frapperai.
Voilà. Mais en revanche, qu'est-ce que c'est cette histoire de citron? Tu vas être puni, donc pas de théâtre. Ta sœur ne t'emmènera pas au théâtre.
Ah, c'est ça la punition, j'ai pas fait
plus
bien.
Ou moins ça. Joe, elle dit en gros, bah non, je t'emmène pas au théâtre parce que tu faut que tu sois puni.
Parce que le théâtre, on comprend que c'est un truc qu'elle aime parce que.
Ah ouais, elle adore ça.
Joe, et comme elle écrit des pièces et qui sont jouées, je reviens un petit peu en arrière, mais à Noël, elles avaient joué une pièce que Joe avait fait. Et c'est à chaque fois une grande passion des filles marches, le théâtre. Quoi. Donc là, c'est la vraie punition.
Et du coup, Amy, elle a vachement les boules de pas aller au
trop
théâtre.
Seum.
Et qu'est-ce qu'elle fait pour se venger de sa sœur Joe?
Elle brûle son manuscrit.
Et comme ça, en claquant des doigts, quand même, elle peut faire des
flammes. Elle cligne des yeux et le truc a disparu.
Il y a un pentacle qui apparaît autour.
Elle voulait brûler sa sœur et elle s'est trompée un tout petit peu à gauche. Elle a brûlé le bouquin. Elle a fait ouais, bon, allez,
c'est pas gentil d'avoir brûlé mon bouquin.
Ouais, le bouquin, ouais.
Du coup, c'est là que c'est horrible parce que.
C'était quoi ce bouquin?
Le carnet, c'était toutes les pièces qu'elle avait écrit Joe depuis 6 années déjà, et du coup, elle est très 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 énervée.
À nouveau, en fait, c'est un peu écrit par Guillaume Canet. Comment on peut se réconcilier?
C'est ça.
Il faut qu'un enfant peut-être va mourir.
Le danger de l'enfant.
Exactement.
Très très bon moyen.
Et ça, cette scène, elle m'avait traumatisée dans la BD. Et bah du coup, un jour, Laurie et Joe se disent tiens, on va aller sur le lac gelé pour faire des trucs.
Des trucs d'amis.
Pour faire du patin à glace, parce qu'ils adorent le patin à glace.
Exactement.
Voilà. Et Amy, elle les voit partir, et comme elle est un peu en mode, moi je vais être avec les grands, du coup, oui, chérie.
Non, pardon, non, surtout le démon qui est avec Amy, je vais faire fondre la glace.
Exactement.
Non, c'est plutôt ses sabots qui sont enflammés quand elle marche sur la.
Du coup ça colle pas.
Et il voit Amy tomber à travers la glace, il fait, oh merde.
Je vais aller embêter quelqu'un.
Qui commence qui à délicatement essayer de sortir de la glace, mais c'est encore pire qu'avant.
Mais du coup, Amy les suit derrière et elle tombe en fait dans la glace qui était plus fine. Et du coup là, Laurie tac tac tac, comme c'est un peu l'homme la situation.
Ouais.
Parce que quand même tout de même, hein, pas trop voilà. Il prend une truc de barrière, il la tire et tout avec Joe et du coup elle s'en sort et du coup tout est pardonné parce que Joe a eu très peur pour sa sœur.
Exactement. Donc, mais c'est quand même assez violent comme image et surtout moi je trouve ça m'a surpris parce que ça arrive vraiment pouf d'un coup quoi. Ça fait 100 pages que tout le monde est joyeux et là la petite elle va peut-être crever.
C'est ça qui est horrible. Moi, ça me brise.
N'hésitez pas, si vous avez fait une connerie au taf, à menacer de vous suicider. Votre patron vous pardonne en général.
Je vais le faire pour le dossier Berthier.
Et du coup, Joe, elle se rend compte qu'elle a vraiment un tempérament pas possible et qu'elle a du mal à le contrôler. Et c'est là que c'est un peu la grande confession avec la maman où sa mère lui dit moi aussi, j'ai un caractère de merde. Et
ça, je trouve ça
et
super émouvant.
J'ai réussi à me retenir et du coup, c'est trop mignon.
Parce que la mère, elle commence à leur dire vous savez, moi, je suis très amoureux de votre père, c'est votre père qui m'a aidé. Et surtout, moi, je serai toujours là pour vous. Je m'en fous de ce que vous faites dans votre vie, vous avez le droit d'épouser qui vous voulez. C'est hyper progressiste quand même en 1960 d'écrire ça. Quoi.
C'est assez progressiste.
Mais après, il y a quand même le truc, là par exemple, sa mère lui dit j'ai un caractère un peu comme ça et je me suis toujours retenue.
Oui, il y a ça aussi.
Et elle lui apprend à se retenir toujours. C'est pas non plus. Voilà.
C'est très progressiste et très moralisateur en même temps.
Oui, c'est ça,
et après, elle lui dit m'en fous, je vais me suicider. Et après, elle dit qu'est-ce que tu veux. Bref, de son côté,
yes, ça marche à tous les coups.
on découvre que de son côté, Meg, la plus grande, elle fait un peu son entrée dans les salons. Elle est un peu plus grande. Elle se pimpe un peu
tous
les soirs.
Elle a des amis riches.
Exactement.
Et elle est complexée.
Elle complexe d'ouf.
Elle a pas assez de thunes.
Parce qu'elle est pauvre et que sa robe, elle est moche.
Et alors, du coup, c'est quoi la rumeur qui court rapidement?
C'est qu'elle est elle est croque-love de Laurie.
Exactement.
Et que c'est la mère, en fait, de Madame March qui prévoit que Meg sorte avec Laurie juste pour l'argent.
Je préfère rester. Toutes celles sous leurs ailes innocentes, ce sont de vrais brigands. Quoi qu'ils me veulent, moi je préfère rester toute seule.
Et il n'y a pas que les rallyes et les soirées mondaines dans la vie. Il y a aussi la littérature, heureusement. Et justement, c'est pour ça que les sœurs March ont créé ce que l'on appelle le Pickwick Club.
Leur podcast.
Ouais. Exactement.
Leur podcast, sans micro, sans enregistrement.
Juste elle hurle tous les soirs à 18h pile sur la terrasse.
Viens vite, il y a le Pickwick Club qui commence.
Bonsoir, c'est le Pickwick Club.
Elle se met.
Alors cette semaine, on parle d'un film. Je sais pas ce que c'est. Délire.
Et alors, ce podcast physique est réservé dans un premier temps aux sœurs March.
Exactement.
Donc, yes. Voilà, donc c'est cohésion de groupe.
C'est leur petite bise.
Voilà, c'est on fait un truc en famille.
Et entre filles surtout.
Voilà.
Surtout
entre filles. Pas entre couilles.
Parce
entre
que filles. Jo, rapidement, elle a une. Enfin, ils ont une admiration mutuelle avec Laurie intellectuelle. Elle dit, bah, on est obligé de faire rentrer Laurie. Il est comme nous, il a les mêmes idées que nous. Ouais. Sauf qu'il a une teub.
Ouais. Et là, Amy propose un sacrifice. Si tu veux rentrer.
Mais ça n'est pas adopté.
Elles sont les quatre assises, genre, dans les petites tenues. Et avant, Satan, qui a aussi une petite tenue, qui prend le thé avec elle.
Et alors, Satan, t'en penses quoi?
Amener le mal. J'ai beaucoup aimé le livre cette semaine. Je l'ai trouvé très touchant.
Avec sa tasse de thé.
Oh, il est chaud le thé. Délicieux tes cookies, mais.
Satan, tu devrais faire attention à ta peau, elle est toute craquelée.
Qu'est-ce que tu as dit? Pardon, je m'emporte.
Et du coup, finalement, Laurie peut intégrer le.
Finalement. En plus, tu sais, au début, les petites, elles voulaient pas, les deux petites. Et il a fallu, genre, deux lignes pour les convaincre, quoi.
Oui,
bon. Du coup, ça m'a fait rire.
Hop, là, pas de problème. Je résous.
Tu l'as déjà vu, mon revers de main? Hop, c'est bon.
Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, Laurie intègre le club. Et qui va un peu prospérer.
Et en dehors, en fait, du salon, parce que ça va devenir une sorte d'échange. Ils vont utiliser une boîte aux lettres où ils vont tous échanger.
Ils sont stylés, hein, ces gens.
Moi, je trouve que c'est un super principe, le coup de. Bah ouais, de ouf.
Voilà. On fait pas ça aujourd'hui, on pourrait le faire, mais on le fait pas. Non, non, on a Facebook.
Non, je t'ai laissé un DM. Réponds.
Mais il y a plus de lien entre des gens, toi, c'est moi. Non.
Ah, je comprends. Bref. Et ça marche tellement bien que Laurie va lui décider d'inviter d'autres amis qui pensent être ouverts d'esprit, qui sont des Anglish.
Oui, il va faire un énorme pique-nique. Il les fait pas rentrer dans le Pickwick Club, mais il organise un grand pique-nique avec eux. Et les Anglish, ils arrivent. Et bon, ils sont un peu, déjà, ils arrivent en disant, on est anglais, on est un peu plus raciné.
Ouais, il y a une meuf, elle fait la meuf et tout.
Et alors, les sœurs March, notamment Joe.
Il y a des mecs qui sont un petit peu tricheurs et tout.
Parce qu'ils jouent au cricket, là. Et en gros, les sœurs March, elles vont rapidement montrer que, ici, you are on US soil.
Ouais.
And so you
USA! USA!
Et ouais.
Et Joe, claque ses pompes. Allez.
Ouais, un peu genre, nous, on s'en bat les couilles et tout. Vous êtes trop des snobs.
Exactement. Et donc, voilà. En fait, elle les flex tout le monde. Tout le monde est impressionné. Et notamment, Laurie qui est encore un peu... Hein, ouais. Et surtout...
Le précepteur de Monsieur Laurie.
Le précepteur de Laurie qui est là et qui est un peu... tombe un peu in love de Meg.
Oui, mais ça, c'est... Mais on pose les pistes.
Mais je me demande juste quel âge il a, parce qu'elle a quand même 16
ans. C'est ça.
Ouais.
On sait qu'elle a... on sait pas quel âge il a, finalement.
Bah, on sait qu'il est cinéaste, donc il a le droit. bref, il abandonne
alors son précepteur.
Rien, en revanche, Joe, de ses objectifs littéraires, de sa grande ambition. Et un jour, elle décide d'aller proposer ses nouvelles dans un journal. Elle se fait griller sur le chemin par Laurie qui la suivait.
Mais lui, c'est
en
vraiment
fait.
Une fouine, celui-là.
Tu veux publier? LOL! C'est trop de la merde!
Non, mais il faut qu'on dise que ce soit grâce à moi!
Et en fait, du coup, Laurie va vachement l'encourager en mode non, mais c'est super ce que t'écris, fais-moi relire. Bon, on avance un peu, les nouvelles sont publiées, c'est merveilleux, toute la famille March est en grande admiration devant Joe, tu es merveilleuse, tu es l'équivalent de Shakespeare à notre époque.
Et là?
Mais là, il y a un télégramme qui arrive, et qu'est-ce qui se passe?
Stop, Père March, stop, malade, stop, urgent.
Et puis c'est tout.
Stop.
Alors moi, je.
Covid, stop, Covid.
Je m'étonne quand même qu'ils aient eu le temps d'envoyer un. Parce que je regarde un petit peu ce que c'est la guerre de sécession. C'est une boucherie.
Mais lui,
il est du bon côté. Ils nous précisent quand même qu'il est du côté du Nord.
Je crois qu'il y a encore une bonne dizaine de pourcents des gens qui sont morts pendant la guerre de sécession qui n'ont pas du tout été.
Prévenus.
On
les attend encore.
Les familles, d'accord.
Ils se battent encore, les cons. J'aurai des esclaves. Non, tu n'en auras pas.
Mais bref, du coup, on apprend que le père March est malade. Il faut vite que la mère March aille à Washington.
Et du coup,
il faut payer ce voyage.
Ouais.
Ah oui. Et du coup, Joe, grande seigneur, coupe ses cheveux.
Meilleur moyen.
Ah, elle les coupe pas. Soyons précis. Elle les coupe pas.
Elle panique.
Elle se rase.
Ouais. Non, mais elle va chez le coiffeur et en gros, elle vend ses cheveux. C'est surtout ça.
Non, mais très clairement, c'est parce qu'elle a pété un câble à cause de la célébrité.
Tu vois, on l'a vu. Il a raconté Britney Spears.
Elle va chez le coiffeur, elle prend elle-même la tondeuse et tout. Enfin, c'est.
Elle s'est fait tatouer Laurie sur le dos.
Exactement. Puis après, elle prend la bagnole et rentre dans les gens. Elle prend la charrette et elle fonce avec les chevaux.
Ah non, plus vite!
Bref, les filles marchent, se retrouvent alors toutes seules pendant un moment. Et en fait.
Sans marmeux. C'est la merde.
Sans Murmur, c'est un peu la merde pour toi parce que en fait, elles sont plus aussi modèles que ça, à part une.
À part Beth.
Qu'est-ce qu'elle fait, Beth ?
Eh bien, Beth, elle va s'occuper de la famille pauvre du début.
Elle va continuer à aller les voir alors que les autres, elles sont complètement parties en live.
Ouais, ça y est, ça prend de la coke et tout.
Amy, elle se tape des mecs à toute heure. Elle les ramène et tout. Enfin, c'est super bizarre.
Il y a des caméras.
Amy a créé un compte OnlyFans. Voilà. Bref, Beth, elle y va à chaque fois, elle s'occupe d'un petit bébé. Et en fait, un jour, elle revient et à nouveau,
no more bébé.
Le bébé est mort.
Stop bébé.
And no baby anymore.
C'est ça. Le bébé lui est mort dans les bras de la scarlatine.
Alors, c'est quoi la scarlatine? C'est très connu.
Point santé.
Ouais, exactement. La scarlatine, c'est une déficience en vitamine D dont souffraient notamment les pirates. Et ça se manifeste comment? Puisque tu perds toutes tes dents. Yes! Et après, tu perds tes os.
Mais c'est une maladie d'enfant aussi, surtout.
Sûrement. Peut-être que c'est un pirate.
Ma mère a eu la scarlatine. Voilà, si vous voulez tout savoir.
Ce qui fait qu'elle a très peu d'eau. Elle est toute molle.
Où est le bébé? Il est mort, monsieur Hummel.
Oh non! Encore un coup de Peter Pan.
Encore un coup du Hollandais volant. Bref. Elle est paniquée, surtout en fait, ses sœurs au début la réconfortent et puis elles se disent merde.
Gros câlin, et puis là, oh shit, la scarlatine,
la COVID. Tu l'as sûrement en fait.
Bah oui, donc on va arrêter de te toucher.
Et Castantienne.
Et
elle l'a
chopée, ouais.
Et donc.
En plus, c'est horrible parce que Beth, c'est vraiment la plus mignonne, celle que tout le monde aime et tout. Et comme par hasard, c'est à elle qu'il arrive des trucs les pires.
Il y a Satan qui se met à pleurer derrière votre.
Pourquoi elle? C'est vraiment la meilleure d'entre nous. Tu me fileras la recette de ton flan.
Bref. Tu vas t'en sortir, Bess.
Pour le flan.
Tu sais, il arrive dans l'hôpital. Je m'en fous de ce que ça coûte, sauver cet être humain.
Bref, l'état de Beth, il empire, mais de manière drastique et très très rapide, à tel point qu'en fait, à un moment, elles se disent, bon bah,
c'est fini.
Il faut cette fois-ci qu'on envoie un télégramme à Washington pour que maman revienne, parce qu'en fait, Beth va mourir cette nuit, quoi.
Josh, désolé, faut qu'on annule la soirée de demain, ça va être compliqué, là.
Elle sent pas bien.
Elles font toutes des prières, et en effet, finalement, Beth récupère complètement. On apprend que papa aussi récupère complètement.
Dernier rebondissement avant.
On serait dans un film de Christopher Nolan, on se dirait qu'en fait elles sont en train de rêver.
Oui,
mais en fait, non, tout va bien, tout va bien.
En fait, on est dans un film de Canet, et donc tout va vraiment bien.
À tel point que cette fois-ci, Mr. Brooke, qu'est-ce qu'il demande à Meg?
Il demande leur mariage.
Voilà, il la demande en mariage.
On a oublié, à l'époque, on se fiance. À l'époque, on se fiançait avant le mariage.
C'est vrai.
Exactement.
C'est maintenant tout se perd, on a oublié cette période.
Et Jo, en fait, elle est très mécontente contre sa sœur. Elle lui dit en gros, putain, si t'acceptes la main de Brooks,
le patriarcat a gagné.
T'as renié toutes les valeurs qu'on a forgées pendant le marchistan, pendant que maman était
pendant
là.
Pendant le Pickwick Club aussi.
Le Pickwick Club et tout ce qu'on a gravé dans nos mains là.
En mode, on est des femmes indépendantes.
Tu vas pas épouser ce con quand même. Quoi, t'as des infos? Non, je te le dirai pas pour pas te les blesser, mais tu ne devrais pas. Et dans la poche de Satan, il y a des textos de
Brooks.
Je pense à toi. On se retrouve 3 ans plus tard, mais avant de préciser 3 ans plus tard, je vais me permettre de préciser autre chose, parce qu'on a pu le dire en fait au début de ce podcast. Il faut savoir que Les 4 filles du Dr. Marsh a été édité en 1868, c'était le premier bouquin, et en fait est sorti la même année, quelques mois après, la suite, qui était le Dr. Marsh, Marie, ses filles. Et en fait, ce bouquin a rapidement été édité avec le premier tome.
Et du coup, c'est la merde et on s'est trompé dans les tomes.
Exactement, en fait, on n'a pas tous lu les deux tomes, alors qu'aujourd'hui c'est quasiment introuvable l'un sans l'autre. Bref, on va se permettre de résumer la suite, mais petite
subtilité,
ils l'ont pas lu en face de moi.
Bah oui, on n'a pas eu les bonnes infos, on a cru que fallait
dire quoi.
Ça va être la surprise, on va le découvrir. C'est ce qu'on appelle un live review. C'est comme ces mecs sur YouTube qui écoutent un album pour la première fois, qui font pause de 30 secondes, mais genre damn, that's my jam, man.
Et donc là, ça va être le live review du Dr. Marsh, Marie, ses filles. Donc on se retrouve 3 ans plus tard après ce qu'on a lu.
3 ans, mais what?
Bah à cette époque, c'est beaucoup, hein.
Ouais.
Elles sont passées de 16 ans à 87 ans physiquement, tu vois, genre
7 ans c'est le même. Bref, le père Marsh, lui, est revenu de la guerre. Meg, elle s'apprête à emménager avec son futur époux, Brooke. Et Amy, elle fait des études d'art.
Ouais, il y en a un autre aussi possédé par Satan qui faisait des études d'art, hein.
Amy, elle fait des études d'art, c'est Satan qui propose sur elle qui fait les œuvres à sa place, c'est genre,
elle fait des photos en noir et blanc.
J'ai intitulé
ça le vide.
donné.
Bon, Jo, quant à elle, elle a réussi à faire publier son premier roman, mais elle a dû en fait apporter plusieurs modifs parce que les éditeurs étaient en train de lui dire ça nous gêne si c'est une fille qui écrit ça.
Mais on pourrait t'écrire. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu gardes Jo, c'est bien Jo.
Exactement.
Et juste Jo.
Ou alors une fille devrait pas écrire là-dessus et tout. Et en fait, elle commence à apporter des petites modifs, mais elle arrive à placer en soum-soum quand même tout ce qu'elle a à dire.
Un président ne devrait pas dire ça.
Un peu comme Louisa en Marche Quentin.
Exactement.
Mise en abîme. Mmh.
Elle règle ses comptes dans ce roman.
Ouais, oui.
Avec
peu,
le monde de l'édition.
Jo, qui était particulièrement bonne.
Mais bon, le titre, c'est quand même le docteur Marsh marie ses filles. Donc, ça, c'est peut-être une pirouette d'ailleurs pour qu'elle puisse se faire éditer.
Bah exactement. Ouais. Mais c'est dans le film d'ailleurs. Dans le film, à un moment, justement, Joe rencontre un éditeur ou un client de l'éditeur. Enfin, en tout cas, il est question de ses romans. Et il est question, justement, que dans ses romans, il faudrait que la fille se marie à la fin.
Oui, c'est ça.
Il soit question de mariage.
C'est comme si le docteur Marsh qui marie ses filles, le titre, et pas les filles qui choisissent de se marier, quoi.
Je vais te le dire clairement, c'est la première fois que je vois une fille qui veut voir le monde de l'édition, mais je peux t'aider, ouais. Je connais les choses.
Hop, j'ai fait tomber mon stylo, tu le ramasses.
Non, c'est toi qui
le
ramasses.
Bref, le temps passe à nouveau. Et on se retrouve quelques années plus tard. Meg, elle a eu deux enfants avec Mr. Brooke, des petits jumeaux qui s'appellent Demi et Daisy.
Demi Moore et Daisy Duck. Brooke.
Exactement. Il y en a un, c'est une bombe atomique, et l'autre, c'est un canard.
C'est Satan, ça.
C'est Satan.
Oui, les enfants de Meg, ils ont la gueule de Satan.
Ils sont tout rouges, hyper musclés.
Comme Jack.
Ils sortent dans la lave en fusion de la chatte de Meg.
Ils te ressemblent, Meg. Et à toi aussi, bro, qu'ils ont tes yeux.
Satan qui écrase une larme.
Amy, elle est invitée à Paris par sa tante Carole. Sauf que, en fait, à l'origine, c'était Joe qui était invité à y aller. Mm. Et en fait, la tante Carole, elle veut pas que Joe vienne à Paris. Pourquoi ? Parce que Joe serait trop masculine et pas assez petite fille modèle
pour
elle.
Ouais, elle peut pas aller dans les salons à Paris, quoi.
Exactement. Donc, en fait, il faut que ce soit Amy.
Discrimination.
Qui peut venir, quoi. Mm-hmm.
Le tome 2, ça rigole pas, hein, disons, ça balance.
Ouais,
hein. Non, mais c'est bien.
C'est beaucoup, c'est hyper revendicatif, là, pour le coup.
Ah, non, mais
moi, ça me dérange. Ça fait presque, des ellipses, hein, ça vient que sur les trucs problématiques.
Joe commence même à soupçonner sa sœur Beth d'être amoureuse de Laurie.
Alors qu'on veut tous que Joe et Laurie.
Exactement, et en fait, on sait bien que Laurie.
Il commence un couple libre.
Voilà.
On livre, c'est ça.
Non, mais quand on est au lit, t'es pas obligé de toucher ta sœur, mais on peut faire le truc tous les trois, tu vois.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu louche, parce que Laurie au début il kiffe Meg, en même temps il kiffe Joe, et maintenant c'est Beth.
Et maintenant
chelou.
Il kiffe Satan.
Surtout,
je n'avais jamais remarqué Satan jusqu'à ce jour.
Beth qui kiffait son grand-père en plus à Laurie.
Oh oui, j'avoue qu'il y avait un
kink
un peu chelou. Ouais. Sauf que bon, nous on voit bien que Laurie il est fou amoureux de Joe, et Joe elle refuse qu'en fait que son meilleur ami soit amoureux d'elle, et elle a surtout envie de pouvoir aider sa sœur Beth, donc elle se dit je me barre à New York. Je vais bosser mon écriture à New York, et comme ça, Beth et Laurie peuvent tomber amoureux. Sauf que sur place, Joe, elle fait la rencontre de Bear, qui est un professeur d'allemand, qui, à nouveau aussi, a fait un peu comme Laurie il y a quelques années, l'encourage dans son écriture.
Mm-hmm.
En disant, c'est vachement bien ce que t'écris, tiens, reprends un verre.
C'est vachement bien ce que t'écris.
T'es vraiment une femme indépendante.
Ouais, reprends un verre.
T'es belle.
Ah, c'est ça, New York à l'époque.
Un verre.
Du coup, il y a un petit scud pour Paris, en mode Paris West New York, genre Paris, c'est les salons et des gens gardés, et New York, c'est stylé, c'est wild.
C'est la côte est, elle rencontre P. Diddy aussi. Ils font un feat, ça marche bien, hein.
Sauf que bon, plutôt que d'écrire des nouvelles un peu, parce qu'elle, ce qu'elle fait en fait, Joe, pour gagner des thunes, elle garde aussi des enfants, mais elle écrit dans Voici, quoi. Un peu, c'est ça, quoi. Elle écrit des nouvelles.
Les feuilletons dans les journaux, les trucs qui font vendre du papier et qui permettent de vivre, quoi. Exact. Pour payer, faut quand même payer le loft, hein,
Mais, sauf qu'en vrai, bon, je sais pas si tu peux y voir ça, mais il y a aussi le coup de Louisa May Alcott, qui écrivait des bouquins de genre, sous pseudonyme, parce qu'elle pouvait pas se le permettre.
Bah oui, elle a écrit des petites nouvelles, des petites choses avant d'avoir des gros romans tels que les du Docteur Marsh. Hein.
Et c'est elle qui a écrit Le Parrain 2.
Ouais.
À savoir. Bref.
Mais c'est pas elle qui a écrit les bouquins que après, comment elle s'appelle là, la meuf du gouvernement a signé, tu sais, les bouquins érotiques.
Marlène Schiappa.
Marlène Schiappa, c'est ça.
Ah bon, elle a écrit des bouquins.
Pour financer ses études, apparemment, elle avait écrit des bouquins.
Parce que moi j'étais tombé.
Elle avait écrit des bouquins de genre.
Oui, parce que moi, j'avais lu 2-3 extraits de ses nouvelles érotiques, Marlène Schiappa, c'était quand même un certain niveau. Mais en effet, on est un peu sur le même. Je vois les yeux globuleux dans le fond. Si vous voulez, pour le prochain épisode, je rapporterai quelques extraits de ces nouvelles de Marlène Schiappa. Mais restons sur les filles du Dr Marsh qui se marient. Bref, elle retourne du coup dans Massachusetts, Joe, après quelques années. Et surtout, du coup, Laurie demande sa main.
Enfin.
Décidé. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit?
No way.
Elle le scute, elle le
clash. Jusqu'au bout, elle va être fidèle à ses convictions.
J'aime en fait, trop l'accent new-yorkais.
Et court dans les bras de Satan.
C'est ça.
Tu m'as tellement manqué. Mais maintenant, je suis à New York, les garçons, ils sont différents. Ils sont plus grands.
Ouais.
Ils sont putain. Allemands.
C'est ça.
Ils sont allemands, les garçons, là-bas.
Tu sais, ils disent pas que des bêtises en Allemagne, hein. Bref, Laurie, il part en voyage en Europe.
Il va aller se rattraper.
Bah, Laurie, il fait vraiment un peu le dandy, genre je pars en Europe.
Il veut aller se taper des petites coettes, comme on dit, quoi.
Il a pas de problème d'argent, surtout lui.
Oui, ça va.
Et en Europe, alors une chance sur deux, hein, que ça arrive, il tombe sur Amy.
Eh oui.
Comme de par hasard.
Bah oui, parce qu'on a dit qu'elle était allée à Paris.
À Paris. Donc, ils se rencontrent, ça sympathise bien. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que la santé de Beth, elle se détériore
encore
très violemment.
Eh oui.
Mais sauf que
c'est temps, vraiment les rebondissements.
Louisa May Alcott, tu vois, elle a souffert de la fièvre typhoïde pendant la guerre et en fait, elle a eu des répercussions sur sa santé toute sa vie. Et hop, ça, je pense qu'elle le fout dans le personnage de Beth en mode genre.
Comme quoi, elle n'est pas que dans, elle n'est pas que dans Joe, elle est aussi dans Beth.
Mais alors, tu vois, elle a eu un AVC et elle parle pas d'AVC là-dedans. Donc ça aurait été pas mal que Beth ait un AVC et que pendant 40 ans après, ils doivent s'occuper d'elle.
C'est que des consonnes après le bouquin. Et en fait, Beth, en quelques semaines, elle meurt.
C'est horrible. Heureusement que j'ai pas lu la suite en vrai. Hein. Ouais, c'est le réel.
Elle meurt, non mais c'est très très violent.
En vrai, c'est triste parce que quand on se dit quand même que c'est un livre qui est fait à la base pour les enfants, c'est v'la violent quand même. Hein.
Non, surtout qu'en plus, c'est la suite, c'est en mode genre les gamins ont adoré toutes les gamines américaines.
Mais ouais.
Et là, Louise May Alcott, je vais vous traumatiser à vie. Bam.
Là, c'est vrai, genre, j'espère que dans la suite, ils feront plus de patins glaces. J'adore ça.
Disons que t'as les.
Elle s'appelle la typhoïde.
Disons que t'as les 50 nuances plus claires au début, puis les 50 nuances plus sombres.
Exactement.
Et là, qu'est-ce que le coup de génie de Laurie qui est avec Amy en Europe
pour
réconforter la sœur, hisse la nappe.
Eh oui, pas con.
Il doute de rien.
Avec sa tante dedans.
En plus, alors déjà, non seulement on se tape pas les sœurs de ses copains, je trouve ça dégueulasse.
Oui.
Et en plus, il tombe amoureux.
Des sœurs, des copains morts, c'est pas cool.
En plus. Et du coup, il décide de se marier. Il lui demande sa main cette fois-ci.
Elle
veut
direct.
Bien. Mais
direct,
c'est quand même horrible d'être le second choix, troisième choix. Hein.
C'est Satan qui a poussé, qui a dit j'ai toujours rêvé d'être une demoiselle d'honneur.
Ah mais du coup, tu sais, genre Bess elle est morte et merde. Du coup, bon bah il reste Kémy.
Mais non, parce qu'il voulait Laurie au début, donc c'est vraiment genre ce serait bien si tu pouvais relever un peu tes cheveux, s'il te plaît, puis t'habiller plus à la garçon. Mais parce qu'il demande Laurie,
Joe,
demande à
Joe.
Laurie demande Joe quoi.
Joe. Laurie, Amy, tout le monde est de retour dans Massachusetts. Le professeur Barrère
jusqu'au bout, Joe, elle va rester, elle va pas se marier. Non.
Le professeur Barrère, il revient. Et là, boum, il demande sa main. Et Joe,
ça marche.
Pour flexer Laurie. D'accord.
Okay. En le regardant droit dans les yeux, tu sais. Ok, pas de problème. Je vais épouser Barrère et non pas Laurie. Ça te va, Laurie?
Le type que je connais depuis 2 mois.
Toi, tu m'as tellement compris. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours.
Bref, l'année suivante, la tante March, elle décède. Ce qui fait qu'un boom l'héritage pour Joe et Baer qui n'avaient pas d'argent. Ils décident de monter une école pour garçons.
Oh.
Joe et Baer, ils ont des gamins, 2 enfants. Amy et Laurie, ils ont une petite fille.
Eh bah,
et
en fait, ça,
tout
ça
se termine avec les 5 petits-enfants.
Oh.
Beth morte.
Tu sais, elle est là aussi, mais son cadavre.
Ils la mettent sur un pieu.
Sur un petit air comme les plantes.
Satan la bite de temps en temps. Elle a bougé.
En décomposition.
Son fantôme, elle est arrivée, mais quand elle a vu le salon, ils étaient là tous en train de se prendre dans les bras en mode la famille réunie au complet.
Complet.
Et Beth, elle a dit ah bah non. Parce que là,
super sympa.
That's life.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change.
Et c'était donc le destin pas si joyeux
destin
que ça.
Destin de Liz. Ouais.
Et alors, il y a la suite, hein. Il y a la suite, donc,
Beth ressuscite.
Le rêve de Joe et les enfants de Joe. Et en effet, le fils a.
Mais en vrai, moi, je veux bien lire la life de Joe, ça a l'air stylé.
Tu nous fais un résumé pour la semaine prochaine? C'est super, elle a signé. Donc, c'était, voilà, notre petite discussion sur les 4 filles du Dr. March. On va peut-être refaire un dernier tour de table pour savoir ce qu'on en a pensé. Cécile.
Bah, moi, j'ai toujours aimé, voilà.
Non, mais détentrice du bon goût, quoi. J'adore, j'ai toujours aimé. Si vous aimez pas, vous êtes des
merdes.
Non,
mais c'est ça. Non, mais je dirais bien, du coup. Le tome 2, mais après je pense que je vais pleurer un peu parce que j'ai pleuré quand Amy
elle a failli mourir. T'as vraiment pleuré?
Non, quand Amy a brûlé son carnet.
Ah, t'as vraiment pleuré?
Bref, oui. Mais c'est horrible, elles sont si pures.
Non, mais j'avoue que la manière s'est traduite en mode genre, enfin, dans le bouquin où ils disent vraiment bah, c'est toutes les notes de Joe
c'est
depuis
horrible.
Des années,
toute sa vie.
Elle pourra plus jamais le réécrire parce qu'en fait elle avait brûlé le brouillon parce qu'elle avait tout bien réécrit et que ça.
putain, je deux sœurs à tout brûler. Et en plus, à la fin, c'est sa sœur qui se pique le
et
mec.
Et en plus, pique ouais, donc bon.
Mais bref. Ce qui est dommage, c'est que si ça avait été J.K. Rowling, elle aurait sorti ouais. après les histoires exclusives de
bah,
Joe
oui.
March.
Et surtout, Joe, je sais pas si elle aurait été aussi ambiguë, du coup.
Oui,
vraiment, la J.K. Rowling, quoi. C'est...
Toi, Raph, qu'est-ce que t'en as pensé?
Oh bah écoute, effectivement, c'est je suis content d'avoir découvert cette deuxième partie avec vous parce que je l'avais pas lu. Mais la première partie, bon, c'était un petit peu trop petite fille modèle pour moi. Je pense que c'est peut-être plus intéressant la suite.
Moi, parce je pense que c'est un traumat et que j'ai préféré le début.
Ouais, mais justement, bah, c'est ça qui me faisait un peu chier, c'est que c'était juste des pour moi des histoires. Alors plusieurs choses, des histoires très moralisatrices qui me faisaient un peu chier. Très désolé, c'est pas le bon terme, mais axées petite fille entre guillemets, hein, histoire de petite fille qui sont gentilles avec leurs parents. Hein, mmh. Et en même temps, grosse avancée féministe avec indépendance, Jo qui est hyper indépendante, des filles qui sont hyper intelligentes, qui ont besoin de personne.
Et Anna dans l'eau.
Et là, c'est bizarre quand même. Mais du coup, je pense que j'aurais peut-être plus aimé la deuxième partie limite, qui est le
c'est
côté
drama.
Ouais, bah non, mais où il se passe des choses en fait. Voilà, parce
oui,
que concrètement
vrai.
Dans le premier, il se passe rien.
Donc, on tient à préciser. Du coup, si vous voulez le lire maintenant, faites attention vraiment à l'édition que vous achetez parce que ouais. nous, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas précisé et qu'on a certains lu la première ou pas deuxième partie.
Ça, il faut demander la complète. Quoi,
exactement. Ouais.
On va prendre une complète.
Comme la crêperie.
C'est ça.
Et toi, Cyril?
Ben c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vient de dire Raph, le tome 2 rend l'histoire beaucoup plus complexe que le tome 1 qui effectivement a une présentation très morale et très gentille en fait.
Et puis on sent que
c'est
fait pour
idéale.
Les petites filles de l'époque.
On sent que c'est fait pour les petites filles. Et c'est vrai que la seconde partie qui est un peu plus sombre et qui amène des moments de vie un peu plus réels et un peu plus douloureux, ça apporte un peu plus de complexité.
C'est sûr que, et je pense aussi en tant que lecteur, tu peux plus t'identifier.
Oui.
Quand elles sont
à la mort par
la
scarlatine, par exemple, voilà. C'est un truc.
Non, mais quand elles sont plus adultes, et. Enfin, tu vois.
Non, mais c'est normal parce que nous on le lit adulte, mais je suis d'accord avec Cécile. À un moment donné, quand tu le lis gamine, tu fais pas attention au même truc, et quand tu le relis adulte, tu dois être en mode genre, ah ouais, donc c'est
mais...
du noirceur.
Mais après, oui, parce que même dans les petites histoires qui soi-disant, il se passe rien, ni, dans chaque chapitre, t'as sous-entendu un truc, un malaise qu'elles ont elles par rapport
bah
à
oui,
ses livres, un truc, enfin tu vois, c'est quand même. C'est...
Oui, mais
en fait,
disait...
c'est un peu le mal
comment
dormant,
ça t'en gagne
quoi.
De l'argent.
C'est super.
Ouais, c'est un peu insidieux, c'est un peu malaisant.
Et du coup, ça fait super quoi. T'as pas envie qu'il arrive.
Tu parlais des malheurs de Sophie au début, en fait, c'est exactement
ça. Fait exactement la
c'est
même situation.
C'est un peu l'équivalent américain.
Tu le lis petit, c'est une petite fille qui fait des bêtises, qui se fait punir parce qu'elle fait des bêtises. Mais en fait, quand tu relis en tant qu'adulte les malheurs de Sophie, t'as vraiment des trucs qui sont hardcore.
Bah,
les
gens, parents et tout,
c'était la même chose. Hein. Regardez, les malheurs de Sophie, il y avait une suite.
Et avec la tante,
la
marraine.
Fichini. Oui, Fichini, mais c'était
la marâtre.
La marâtre,
voilà, c'est ça.
La marâtre, la famille de Paul qui meurt. Le voyage, ça se passe super mal et tout. Enfin bon, bref.
Donc non, je pense qu'on peut s'accorder à dire que finalement, c'est un bouquin qui est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer.
Et bon, après, s'il y a autant de succès,
c'est parce que Combini à liker. Est-ce qu'on a un petit tour de recommandations pour finir, Cécile?
Bah, du coup, c'est peut-être un peu capillotracté, comme on dit. Mais dans le genre, femmes un petit peu indépendantes qui veulent vivre leurs rêves et que c'est un peu vieilli aussi.
Britney.
Alors là, ça peut pas être capillotracté, justement.
c'est
elle a attrapé le crâne. Mais...
je conseille de regarder Les Demoiselles de Rochefort, qui est un petit peu un de mes films préférés. Là, c'est comédie musicale, c'est des belles couleurs, c'est la joie aussi, mais en même temps la tristesse.
Qui est disponible sur Netflix maintenant, puisque tous les films de
Denis
sont,
sur Netflix,
sur Netflix.
Donc, je vous conseille fortement Les Demoiselles de Rochefort. Et toi?
Bon, moi, je vais vous conseiller quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps.
L'amour.
Voilà, c'est magnifique. Non, mais qui a popé sur mon YouTube, je ne sais pas trop pourquoi. C'était dans les archives de l'INA, c'est le discours de Delphine Seyrig, une actrice donc, qui a fait ce discours il y a 50 ans, en 1972, qui est hyper avant-gardiste sur le féminisme et qui notamment dit que le mariage est une forme de prostitution. Alors je dis pas que les femmes mariées sont dans une forme de prostitution, mais
voilà.
elle démontre par A plus B comment est-ce que l'indépendance des femmes devrait être mis plus en avant et pourquoi est-ce que on a
une des signataires du manifeste.
Ouais, et non, du coup je vous le conseille à regarder parce que c'est très fort, c'est super moderne et elle parle super bien. Voilà, allez regarder ça.
Toi Cyril?
Très bien, et toi Cyril?
Moi c'est en lien direct avec le film qui est sorti cette année.
Donc qui était réalisé par Greta Gerwig. Bon, du coup, j'imagine que vous aurez probablement, pour la majorité d'entre vous, déjà vu le film si vous écoutez le podcast, ou non, et vous êtes curieux, et c'est tant mieux. Je vous conseille du coup de voir, si vous l'avez pas vu, Lady Bird, qui était un des films qui avait été réalisé juste avant par Greta Gerwig, et qui pareil est justement sur la problématique de l'enfance et comment une fille peut grandir, s'épanouir comme elle le souhaite, et pas forcément rentrer dans les codes tels que on peut les imaginer.
Qui était très autobiographique pour le coup aussi de la part de Greta Gerwig.
Absolument.
La meuf a un sillon et elle le creuse.
Bah oui, c'est ça. Et toi, Gaspard?
Moi, je vais faire la je pense, la reco la plus prétentieuse qu'on ait jamais fait dans cette histoire.
Vous connaissez Simone Veil?
mais en même temps, comparé à Delphine Seyrig, non, je vais vous recommander du Bergman. Non, Fanny et Alexandre. Que j'ai eu la chance de découvrir pendant ce confinement, parce que ça dure 4 heures, mais je vous invite à regarder ce truc parce que vous vous en souviendrez toute votre vie, à mon avis. D'ailleurs, moi, je m'en souviens toute ma vie. Et en fait, la première heure et demie est très très joyeuse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis la deuxième heure et demie, 2 heures et demie qui suivent sont l'horreur totale. Donc, il y a à nouveau ce truc de deux parties.
Pervertir
où on peut regarder
l'enfance.
Exactement, et on peut regarder aussi que la première heure et demie qui est très joyeuse.
J'ai s'arrêté là, je fais un générique à l'intérieur.
Parce que, alors, le clou, c'est que ça s'arrête au moment où ils ont plus de sopalin. Et à partir de là, ça descend l'enfer. Donc on voyait qu'il n'y a plus de sopalin, vous arrêtez.
En fait, c'est que la deuxième partie n'est pas sous-titrée, donc on se tape du suédois pas sous-titré, c'est une horreur. Merci Cécile d'être venue nous parler. Merci à toi Cyril d'être venu.
Merci à vous.
Merci toujours à toi, mon Rafi Choumichou.
Merci à toi. Merci à vous.
On vous fait des énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour parler.
Exactement.
On se retrouve pour parler musique.
On parlera de Clo-Clo, évidemment.
Notre idole nationale à nous. Voilà, n'oubliez pas de partager, de mettre plein d'étoiles, ça nous aide. En parler autour de vous. De prendre bien soin de vous, évidemment.
Et de rester prudent.
Exactement. De consommer toujours un maximum de drogue.
Dur.
Oui, de préférence. Et on
ayez des addictions, de manière générale.
À la prochaine.
Allez, bisous.
Bisous.